très heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette émission hebdomadaire de Comaguerre, dont ce n'est pas la rentrée, mais c'est la rentrée pour tout le monde. Enfin, c'est le titre qui s'affiche à la une des journaux télévisés, c'est la rentrée. En fait, s'il faut parler de la rentrée, c'est pour expliquer que pendant les deux mois qui nous séparent maintenant du 1er juillet, en gros, l'actualité internationale ne s'est pas du tout ralentie. Donc, il n'y a pas eu de trêve olympique, il n'y a pas eu de pause, ce n'est pas vrai. La trêve olympique, c'est ce que M. Macron a essayé de faire rentrer dans nos oreilles, dans nos yeux aussi. Et en fait, pas du tout. L'actualité s'est poursuivie avec tous ses côtés négatifs et puis des côtés positifs intéressants sur lesquels on va aussi s'arrêter. Donc, c'était ça la première donnée du jour. Il n'y a pas de rentrée parce qu'il n'y a pas eu de sortie. Alors, il n'y a pas de rentrée même d'un nouveau gouvernement, puisqu'il n'y a pas de nouveau gouvernement. Donc, il n'est pas rentré non plus. On ne sait pas à quoi il s'occupe, à voir les uns les autres, à se promener, à faire comme s'il gouvernait. Et on en est à se demander si, au fond, la situation ne lui convient pas. Cette espèce d'incapacité officielle, mais en même temps qui montre bien qu'il continue à s'agiter, à prendre des décisions, à prendre des positions, à téléphoner, à faire arrêter M. Dourov, etc. Au fond, c'est peut-être la solution la plus confortable. Pas de gouvernement, pas de parlement, pas de projet de loi à défendre. Je fais ce que je veux et le pays me supporte. C'est comme ça. Alors, ça s'appelle une dictature soft, hein, on dirait ça dans le vocabulaire du jour. Ben, il est là, il ne peut pas s'en aller parce qu'on n'a pas trouvé le moyen. Alors, le moyen destitution, il existe, bien entendu, mais il est assez difficile à mettre en musique dans les conditions concrètes où se trouve le Parlement. Et donc, en fait, voilà, il peut très bien poursuivre comme ça. Alors, je signale aux auditeurs que ça chagrinerait qu'en Belgique, une situation analogue a duré pendant 2 ans. Que ça a eu lieu aussi aux Pays-Bas, et donc il n'est pas impossible qu'en cas de majorité parlementaire introuvable, sans
et
accord...
Au Liban.
Sans parler évidemment du Liban, il n'est pas impossible que cette situation dure. Ouais. Alors en même temps, il y a quand même des gens qui prennent des décisions pour la France, mais pas... C'est pas la France qui les prend, c'est Bruxelles. C'est Madame von der Leyen et les commissaires. C'est Monsieur Thierry Breton, commissaire à l'industrie, etc. Eux, ils sont toujours là. Et eux, ils se gênent pas pour envoyer des mises en demeure. Faites ceci, faites cela. Vous êtes à notre disposition. La France n'est pas gouvernée. On prend la place et puis c'est comme ça. Donc... J'appelle pas à ceux que cette situation énerve à ne pas s'énerver, ça certainement pas, mais donc montrer les limites de la chose. Il n'y a pas de majorité parlementaire possible aujourd'hui, et je pense que l'équipe actuelle, l'équipe démissionnaire, alors on voit à la télévision Monsieur X démissionnaire, Monsieur Machin démissionnaire, Madame Machin démissionnaire, et je parle, et j'ai des commentaires à faire, et j'ai des choses à dire, etc. Mais qui vous êtes pour parler? En plus, la plupart d'entre vous sont députés, vous ne devriez pas être à la fois député et ministre. C'est interdit par la Constitution. Bon, vous l'êtes quand même. Vous avez voté, d'ailleurs, en tant que député pour la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, au point que, heureusement, la France insoumise a demandé à vérifier au Conseil constitutionnel si c'était légal que quelqu'un qui est à la fois ministre et parlementaire vote en tant que parlementaire. Bon, voilà, mais tout est comme ça. Alors, je m'arrête un instant sur le Conseil constitutionnel pour essayer de le situer par rapport à des organes qu'on voudrait nous présenter comme équivalents dans d'autres pays du monde. Le Conseil constitutionnel n'est pas la Cour suprême des États-Unis, pas plus que l'équivalent de la Cour suprême allemande. C'est-à-dire, ce n'est pas une juridiction, c'est un conseil, donc c'est un organe mis en place par l'État, nommé par l'État, qui va lui dire, il serait bon de... Ça, c'est un peu louche, c'est un peu délicat, il faudrait éviter de... Mais à aucun moment, une décision du Conseil constitutionnel ne peut constituer un jugement comme un jugement de la Cour suprême aux États-Unis. Quand la Cour suprême décide quelque chose, quel que soit le sens dans lequel elle décide, elle a décidé. Et donc la présidence, le Parlement sont obligés d'en tenir compte. La grande différence, elle s'explique, quand on est élu... choisi plutôt à la Cour suprême des États-Unis, on y est jusqu'à la fin de ses jours. C'est-à-dire qu'on est intouchable. Et donc on peut se permettre de dire, monsieur un tel président, vous avez fait n'importe quoi, vous avez violé la Constitution des États-Unis, tel amendement, etc. On ne voit pas, et on n'a quasiment jamais vu, le Conseil constitutionnel prendre des positions comme ça. De toute façon, le gouvernement aurait le droit de s'asseoir dessus. Donc, n'attendons pas des miracles là où ils ne peuvent pas se produire. Ce n'est pas la grotte de Lourdes, le Conseil constitutionnel. Il n'y aura pas d'apparition. Hein. C'est un endroit où on voit une espèce de scène de fond avec M. Fabius, M. Juppé et des gens de moindre importance ou de moindre stature politique qui sont là parce que...
Sarkozy.
Voilà, ils sont bien payés. Ils donnent des avis, mais ça amuse la galerie. Ça ne sert à rien. Ça amène à dire que, en plus, la pratique de ce gouvernement est une utilisation de la Constitution. Je ne vais pas développer beaucoup sur la France, mais ça mérite quand même d'être expliqué. On a beaucoup parlé de destitution. Alors, il y a effectivement, dans la Constitution de la République, un article sur la destitution. Et je vous le lis, parce que vous allez voir. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Avec ça, vous êtes bien avancé. Il ne peut pas être destitué, sauf manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut interpréter ça absolument comme on veut. C'est-à-dire lui faire dire, alors, emmener ça au Conseil constitutionnel, il trouvera toujours que la destitution n'a pas eu lieu. Bon, on n'en est pas là, puisque pratiquement, il n'y aura pas la majorité. Mais même ce texte-là, alors, ce texte-là, il a une histoire. Il a une histoire, il a été inventé par M. Nicolas Sarkozy, ou par ses conseillers, en 2007, quand il est arrivé à la présidence, parce qu'il voulait donner l'apparence que le président pouvait être critiqué et même destitué, et en même temps écrire cette apparence de destitution de telle façon que ça ne pouvait jamais marcher. Voilà, donc l'extrême, le vice, c'est du vice juridique, je ne sais pas si c'était le vice de Nicolas Sarkozy lui-même, mais c'est le vice juridique consistant à fabriquer un texte qu'on dit c'est du droit, c'est du marbre, c'est solide, c'est clair, et en fait, c'est pas du marbre, c'est du sable, dont le Conseil constitutionnel fait ce qu'il veut, et dont le gouvernement fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que c'est que les devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et là, on peut faire gloser les journalistes, on peut faire des tribunes tous les jours à la télévision, on n'y comprendra pas plus. Hein. En plus, on y invitera bien sûr que des gens qui diront « c'est très très compliqué ». Et voilà. Donc voilà, on a une apparence de texte qui est inviolable et qui est de socle de la République. Et en fait, ce texte, fabriqué opportunément par M. Sarkozy, j'insiste, parce qu'il a quand même, quand il est arrivé au pouvoir, il a pris soin de retoucher la Constitution sur un de ses aspects. L'aspect antérieur de la critique du président, c'était la haute cour, c'est-à-dire c'était la condamnation à mort ou à la peine de perpétuité par le Parlement. Là, c'était beaucoup plus grave. On accusait de trahison. Alors, vous avez trahi l'État, hein, genre par exemple Pétain trahit l'État, effectivement il y avait un État, il s'est livré à l'occupant allemand, bon, il a trahi. Bon. Là, Sarkozy s'est dit, je vais donner l'apparence d'une critique possible du président, et en fait, elle est tout à fait inexploitable. Bon. Bravo M. Sarkozy, c'était du beau travail de manipulation des textes. Je n'en dirai pas plus là-dessus, parce qu'on va vivre dans cette situation, je le présume, pendant un certain temps, puisque je pense que cette situation arrange finalement l'Élysée, qui fait ses petites affaires, qui fait arrêter M. Dourov, qui va par-ci, par-là, qui envoie M. Séjourné faire comme s'il était encore ministre, etc., qui prend des positions sur des tas de choses. Hein. Après tout, pourquoi se priver, puisque de toute façon, personne ne proteste. Alors, pourquoi personne ne proteste ? Alors, beaucoup de gens disent l'opposition est nulle. L'opposition n'est pas nulle, mais il n'y a pas une opposition. Il y a deux ou trois oppositions qui ne sont pas d'accord. Donc, il n'y a pas une opposition. Il n'est pas le parti présidentiel et l'équipe Macron n'est pas face à un bloc parlementaire qui dirait « je ne veux plus ». Il est face à des gens qui disent « moi, je veux pas ci, moi, je veux pas ça », qui ne sont pas capables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et c'est là-dessus qui va jouer, aussi douloureux que ça puisse nous paraître. C'était pour un peu revenir là-dessus. Et pour rester dans la situation politique compliquée, je vais passer par les États-Unis un petit moment. Car il s'est passé beaucoup de choses très très intéressantes et très nouvelles dans la campagne en cours. Alors vous vous souvenez, alors cet été, pendant que vous étiez en train de regarder les coureurs sur la piste du Stade de France, eh bien, il y a eu un attentat contre M. Donald Trump, qui a échoué. On peut dire quasi miraculeusement, hein, puisqu'il était visé par un tireur qui n'était pas très loin et qu'on avait vu se préparer. Il a tourné la tête au moment opportun, c'est-à-dire la balle lui avait raflé l'oreille au lieu de lui rentrer dans le crâne. Bon. Donc il a survécu. On ne sait pas s'il y aura des suites, parce que les services de sécurité n'ont pas l'air très, très motivés pour donner suite à cette affaire-là. Bon, il est donc toujours en campagne. Il fallait rappeler ça. Et puis, il y a eu, j'ai fait aussi le retour sur l'été, il y a eu finalement la décision in extremis, j'allais dire, de l'appareil démocrate de dire de M. Biden, c'est pas possible, tu dis trop de bêtises quand tu parles, souvent tu parles plus du tout, on va être obligé quand même de trouver quelqu'un d'autre pour tenir la tribune jusqu'au début du mois de novembre. Et ils ont tiré d'un chapeau Mme Kamala Harris. C'est là que ça devient très cocasse, puisque cette dame n'a pas été proposée à la Convention démocrate, elle a été imposée à la Convention démocrate, qui n'a même pas émis un vote. Retenez-vous bien, on a fait un spectacle en disant « Voilà la candidate à la présidence, tapez dans vos vins, allez-y, soyez contents, manifestez, nous avons un candidat démocrate ou une candidate démocrate, et l'affaire est pliée. Bon. » Alors l'affaire est pliée, peut-être pas. Peut-être pas. Alors, je me réjouirais ni de l'élection de l'un ni de l'élection de l'autre, parce que je pense qu'elle, elle n'a pas de programme et elle n'a pas la tête à faire un programme. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui fera un programme à sa place. On ne sait pas lequel, puisqu'elle n'a rien dit et qu'elle ne dira rien, puisqu'on lui a interdit de recevoir des journalistes. C'est le fin du fin. C'est-à-dire, on est tellement peu sûr de ce qu'elle peut affirmer à l'écran qu'on lui interdit de parler, pratiquement c'est ça. Et puis de l'autre côté, Trump étant ce qu'il est, il peut dire des choses, mais en général il tient des propos assez... Lui il parle, mais il tient des propos assez généraux qui ne représentent pas un programme présidentiel. Donc je laisse les parieurs qui aiment ça en disant c'est lui qui va gagner ou c'est elle qui va gagner, je n'en sais rien et je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ni l'un ni l'autre n'ont affiché ce qu'ils veulent faire réellement. Et donc ça se jouera sur autre chose, sur des influences extérieures, sur les principaux donateurs, qui va donner plus d'argent, est-ce que c'est le lobby militaro-industriel, est-ce que c'est les banques, est-ce que c'est la Silicon Valley, on n'en sait rien, et bien malin celui qui pourrait faire un pronostic aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que quand même ce paysage a été bouleversé une fois que Mme Kamala Harris a été promue candidate à la présidence, a été bouleversé par deux interventions d'individus qui n'ont pas rejoint Trump en tant que participant à l'organisation de sa campagne, mais qui ont simplement pris la parole en public, y compris devant un auditoire républicain, en disant « je le soutiens, pas plus ». Mais ces deux personnages pèsent lourd, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que du frère de Bob Kennedy, assassiné comme son frère dans ces années, au moment où il était ministre de la Justice. Et il s'agit, alors, le fils de Bob Kennedy, on le connaît, et il se passionne, et il écrit là-dessus, et il tient... Il a été, à un moment donné, candidat aux primaires du Parti démocrate, et puis il n'a pas réussi à s'imposer, puisque le clan Biden avait verrouillé, il n'était surtout pas question qu'il arrive à être candidat du Parti démocrate, mais il s'intéresse beaucoup à la santé du peuple des États-Unis. Ça, c'est un aspect très intéressant, puisque les chiffres qu'il met en avant montrent effectivement que la santé du peuple des États-Unis est mauvaise, que le système de santé est cher, compliqué et n'est pas favorable pour les personnes à petits et moyens revenus. Bon. Et donc, il publie des statistiques et des commentaires sur, par exemple, l'obésité aux États-Unis. L'obésité qui est passée de 1% à 55% de la population. L'obésité, c'est une maladie. Ça se soigne, mais ça ne se soigne pas aux États-Unis. Ça s'entretient parce que dans les supermarchés, on vend de la nourriture qui favorise l'obésité. Et donc, tout va bien comme ça. Walmart est content, les vendeurs de pop-corn sont contents et les citoyens américains sont malades. Bon. Donc, moi, je trouve que l'apport... au point de vue de la réflexion sur la société américaine de M. Robert Kennedy, de ce point de vue-là, est positif. Et donc, il dit, moi, je vais voter pour Donald Trump, et il le dit devant des auditoires républicains, qui sont très contents d'entendre ça, parce qu'au fond, ils avaient envie de voter Trump, je ne sais pas pour quelle raison, plutôt que Biden, mais au fond, en train de parler de la condition concrète de la vie des citoyens américains, ça fait partie aussi de la demande et des intérêts de ces citoyens américains qui vont voter. Ils s'intéressent à ce qu'ils voient autour d'eux, dans la rue. Et donc, on parle de la santé du pays et de ses habitants. Ça, ils écoutent. Donc, c'est un apport. Combien de voix ça va déplacer? Alors là, les commentateurs s'amusent, 50 000 voix, on n'en sait rien du tout. Mais toujours est-il que ça donne un autre éclairage à la campagne que va faire Donald Trump. Il y a des choses qui se diront par la bouche de Robert Kennedy qui ne se seraient pas dites. Et la deuxième intervention est à la limite plus intéressante parce qu'elle vient d'une démocrate, alors comme Robert Kennedy était lui-même démocrate, mais qui a été à un moment dans les primaires pour être candidate aux précédentes présidentielles pour le Parti démocrate et qui a un curriculum vitae tout à fait particulier. Elle s'appelle Madame Tulsi Gabbard. Donc d'abord, c'est une Hawaïenne, elle a donc été représentante à la Chambre des représentants pour Hawaï. Elle est métissée, disons, elle a des origines aussi des îles, pour faire simple. Hein. Et donc, elle a un parcours particulier, puisque d'une part, elle a été en position assez forte dans le Parti démocrate, où elle a été considérée comme une future étoile du Parti démocrate, et puis elle est déçue, on va expliquer pourquoi. Entre-temps, elle a un parcours qui oblige un certain respect, parce que cette dame s'est engagée dans la garde nationale, elle a fait plus de 10 années de campagne dans la garde nationale, en particulier en Irak, elle est aujourd'hui colonel de la garde nationale, et donc c'est difficile pour les opposants de dire c'est une gauchiste, c'est une arriviste, etc. C'est un peu délicat. Hein. Et c'est une personne qui dit effectivement, moi je suis allé pour défendre mon pays, et puis j'ai observé un certain nombre de choses qui ne me convenaient pas, mais je n'ai pas fui. Je rappelle qu'un certain George W. Bush, au moment où il allait devoir partir sous les drapeaux, s'est lui aussi fait inscrire à la garde nationale, mais comme par miracle, on lui a trouvé un poste aux États-Unis. Il n'est pas allé en Irak, lui. Elle y est allée, elle a fait son travail. Et aujourd'hui, elle est colonel. Donc, la personne est respectable. Et en fait, elle est motivée par le fait qu'il y a quelques années, au moment où elle était une étoile montante dans le Parti démocrate, elle a eu un débat public avec Madame Kamala Harris, télévisé. Et elle a écrasé Madame Kamala Harris, qui est une sotte qui rit de tout et qui ricane et qui n'a rien à dire sur rien. Hein. Et elle fait, alors, Madame Tulsi Gabbard fait campagne. Elle fait non, pas par campagne. Elle dit oui, moi je vais voter Trump et voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas voter pour Kamala Harris. Et son jugement est sans appel et radical. Il dit chaque fois qu'elle parle, elle ment. C'est tout. Je l'ai jugée, j'ai eu affaire à elle dans un débat télévisé, je l'ai affrontée dans des congrès du Parti démocrate, cette femme ne sait que mentir. Bon, alors si vous voulez d'un menteur à la présidence des États-Unis, c'est libre à vous de choisir, moi je vous préviens, j'ai constaté, et je m'en suis tiré avec tous les honneurs, c'est-à-dire aucun journaliste honnête des États-Unis, même s'il est pro-démocrate, ne peut dire que Mme Kamala Harris a fermé le caquet, j'allais dire, à Mme Tulsi Gabbard, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et elle est, comme on dirait chez nous, elle connaît ses dossiers, elle sait de quoi elle parle de la défense de son pays, elle parle du fonctionnement de son pays, et donc fait effectivement une voix qui va porter aussi dans le sens de Donald Trump. Je ne vais pas plus loin dans les pronostics. Simplement, on a là des ruptures qui montrent que la société des États-Unis est en crise, ouais. Puisque des démocrates de longue haleine qui sont engagés, qui ont pris des positions, la famille Kennedy, on la connaît, elle a suffisamment souffert de ça. Tulsi Gabbard a pris des engagements très très clairs en tant que démocrate et en tant que citoyenne pour faire ce que son pays avait décidé de faire, pour faire son devoir de citoyen. Quand ces gens-là disent qu'il ne faut pas voter pour Mme Kamala Harris, ça pose quand même des problèmes au camp adverse. Et comme Mme Kamala Harris n'a qu'un mot à la tête, c'est « tout est dans la joie », alors la joie va continuer dans le camp démocrate. Je lis un petit passage d'une interview qu'elle a donnée pour vous la situer. Elle dit, on la questionne sur le président Trump et son soutien. « C'est une affaire personnelle pour moi, le soutien au président Trump. En tant que soldat, pendant 21 ans, j'ai été déployé dans de multiples zones de guerre dans différentes parties du monde, mettant ma vie en jeu pour la sécurité et la liberté du peuple américain. Il est important pour moi et pour chacun de mes frères et sœurs en uniforme que nous ayons un commandant en chef qui valorise chacune de nos vies, qui assume très sérieusement cette responsabilité de commandant en chef et, je souligne, qui épuisera toutes les voies diplomatiques avant de considérer la guerre comme un dernier recours. » On ne peut pas être plus clair. Hein, on ne peut pas être plus clair. Et donc ce discours joue aussi dans la campagne électorale. Elle a Il est clair aussi que ni elle, ni Robert Kennedy Jr. ont eu des propositions. Ils ne seront peut-être pas ministres, ils ne seront peut-être pas dans l'équipe à la Maison-Blanche si Trump est élu, mais leur prise de position, marquée comme celle-là avec une grande clarté sur les questions à quoi sert un commandant en chef, il sert à éviter que le pays soit battu et surtout à éviter que le pays fasse une guerre inutile. Et on sait que la quantité de guerres inutiles menées par les États-Unis dépasse toutes les proportions communément admises. Bon. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. D'autres élections, très très rapidement, je les évoque, des élections en Allemagne, des élections régionales en Allemagne, où effectivement, alors on en est arrivé, il y a eu deux régions, bien, vous savez que c'est jamais à la même date, mais il y en a qui se suivent les unes les autres. Enfin, l'enseignement, c'est que le Parti social-démocrate, dont est membre M. Scholz, le chancelier à la tête de la coalition, arrive à faire entre 6 et 7% des voix dans le meilleur des cas, hein, c'est-à-dire en voie d'effondrement. Les écologistes, qui sont aussi dans la coalition gouvernementale, s'effondrent, ils perdent la moitié de leur voix. Les libéraux, qui sont un autre cheval de cet attelage compliqué qu'est le gouvernement allemand, n'ont plus d'élus dans les deux élections régionales qui ont déjà lieu, tellement ils ont perdu de voix. Enfin, c'est un gouvernement qui ne représente plus que les ministres eux-mêmes et les partis, mais c'est tout. Alors, qui a progressé? Alors, a progressé, parce que là, il s'agissait surtout de deux Länder de l'Est, c'est surtout le parti considéré comme d'extrême droite, l'AfD, mais aussi le nouveau parti de Mme Sarah Wagenknecht, qui est, on peut considérer comme un parti de gauche intelligent, non belliciste, et qui refuse effectivement l'engagement de l'Allemagne dans la guerre ukrainienne. Donc là aussi, c'est un peu un désastre politique pour l'équipe au pouvoir, et ça laisse ouvertes des possibilités de rectification de la politique allemande, puisqu'il y a quand même là-dedans beaucoup de gens qui critiquent l'engagement allemand pour l'Ukraine, dont je dirai un mot tout à l'heure. Ça, c'est la première donnée. Qui était important à souligner. Et je clôt le chapitre des élections en revenant un petit peu, et ça me donnera l'occasion d'aborder un autre sujet, sur le résultat de l'élection présidentielle au Venezuela. Parce que finalement, donc il y a eu contestation par la rue, par, je l'avais dit, une espèce de banditisme organisé par les États-Unis. Et puis le président a soumis le vote, donc les résultats du vote, avec le recomptage des bulletins et tout, à un tribunal qui lui est souverain, c'est pas un conseil constitutionnel à la française, qui, après avoir examiné toutes les pièces qu'on lui a fournies, les relevés des signatures au vote, le comptage des bulletins, a proclamé l'élection valable. Bon. Donc l'affaire est close de ce point, du point de vue de la propagande américaine, j'allais dire, pour faire simple, l'affaire est close. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de fabriquer un faux président comme il avait fait à Guaido. Ils ont essayé de dire que les élections n'étaient pas valables. Et puis, ça n'a pas marché. Bon, on peut considérer que c'est terminé. Et au passage, c'est terminé avec un élément de la situation nouvelle du Venezuela. C'est que dans sa dernière période de mandat, donc Maduro a eu un premier souci sur lequel j'insiste, parce que c'est élémentaire quand on a un pays qui était dans une crise économique très très grave. Assurer la sécurité et l'autonomie alimentaire totale du pays. Or, il y a un programme qui a été lancé et aujourd'hui, le Venezuela n'a pas besoin d'importer de la nourriture. C'est comme ça qu'on établit une démocratie qui peut aller plus loin sur d'autres terrains, mais elle sort d'une dépendance qu'on n'aurait pas hésité à lui rappeler, « Achetez-moi du blé, achetez-moi ceci. Bon. » c'est tout pour le Venezuela, mais ça m'amène à m'arrêter sur un personnage qui a joué dans cette opération vénézuélienne un rôle étrange, il s'agit du président brésilien. Au moment où les États-Unis et l'Europe derrière lancent la campagne en disant « opération trucage électoral, bon, il faut refaire les élections et tout », M. Lula, président du Brésil, qui est un pays donc frontalier, voisin, et donc le poids lourd quand même de l'Amérique latine, se permet de reprendre le même discours. Et il dit à un autre chef d'État latino-américain, dont il sait qu'il est menacé en permanence depuis des décennies par le grand frère de Washington, il dit qu'il faut refaire les élections. C'est-à-dire qu'il tient exactement le même discours que la Maison-Blanche. C'est complètement regrettable. Bon. Un autre chef d'État voisin a dit la même chose. Il s'agit de M. Petro, le président colombien, qui lui aussi a dit qu'il faut recompter les voix. Et M. Maduro, à juste titre, a dit « Mais est-ce que je suis allé m'impliquer dans vos élections à vous pour dire que c'était pas régulier, que c'était pas ci, que c'était pas ça ? Je n'ai jamais fait ça. Je ne ferai jamais ça. Chacun est souverain chez lui. » Donc double erreur de Lula et du président Gustavo Petro. Alors le président Gustavo Petro, il est sur une trajectoire qui ressemble assez à une sinusoïde. Ça vous dira quelque chose ? C'est-à-dire que... À certains moments, il est radical, il veut aller de l'avant. Puis à d'autres moments, il dit « Ah ben, si le peuple n'en veut pas, tant pis, je gouverne parce que ça m'occupe, etc. » Il a tenu des propos assez incohérents ces derniers temps, au point qu'on se demande si c'est excès de fatigue ou s'il voit venir un coup d'État qui est toujours possible pour le renverser et pour remettre au pouvoir les durs, les escadrons de la mort, etc. Je ne l'exclus pas. Et de fait, en prenant cette position par rapport à l'élection vénézuélienne, il a laissé la porte entrouverte. « Oh, ben, si ça arrive, c'est pas grave. Sous-entendu, si j'y laisse pas la peau. » C'était presque ça. Donc M. Petro est fatigué. Je vais simplifier la situation. Il est fatigué. Il sent sa position intenable. Il n'arrive pas à faire passer des réformes. Il n'a pas beaucoup de députés, c'est-à-dire l'opposition contrôle le Parlement et tout. Et je pense qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus, mais on peut rester digne, même si on est fatigué. Là, il a fait un faux pas. Alors, c'est très regrettable parce qu'à certains moments, le Venezuela lui a fourni de l'aide. Ça, il a oublié. Bon. Et j'en reviens à M. Lula. J'en reviens à M. Lula parce qu'il est donc quand même dans les BRICS, M. Lula, et dans les fondateurs des BRICS, dans les 5 ou les 4 plus 1 avec l'Afrique du Sud. Bon. Donc il se permet de tenir une position qui est regrettable au moment où, et ça se passera au mois d'octobre, donc dans un mois, à Kazan, en Russie, la Russie qui préside les BRICS pour cette année, décidera ou non de l'ouverture des BRICS à de nouveaux membres. Et parmi ces nouveaux membres, le seul qui soit retenu et possible, c'est le Venezuela. Donc quand M. Lula, qui est dans les BRICS, au moment où il est question de faire rentrer le Venezuela dans les BRICS, se permet de dire que M. Maduro traficote les élections, M. Lula joue un drôle de jeu. Avec qui joue-t-il et pour qui joue-t-il ? Ça, c'est mon premier sujet d'inquiétude sur les BRICS. Et il va y en avoir un autre qui est d'une plus grande taille. Il s'agit de M. Modi. Ça s'écrit pas M-A-U-D-I-T, ça s'écrit M-O-D-I. Je précise. Bon, mauvais jeu de mots. Allez. Bon. Monsieur Modi est allé rendre visite à Monsieur Zelensky. Ah. Alors, je donne un chiffre. Je donne un chiffre parce qu'on a de la peine, puisque le gouvernement ukrainien, c'est un peu comme le gouvernement français. Il n'y a plus d'élections, tout est interdit, les partis politiques, c'est même plus grave. Bon, donc, il y a un gouvernement qui est là, ils occupent les sièges dans les ministres. Il y a un monsieur qui est dans l'immeuble présidentiel qu'on reçoit ici et là, on dit c'est lui le président. Bon, plus personne n'y croit, mais enfin, c'est la situation de fait. Bon. Aujourd'hui, alors j'ai trouvé, parce que je cherche depuis longtemps, puisqu'il n'y a plus aucune statistique officielle qui sort de cette espèce de gouvernement ukrainien, le chiffre de la population actuelle de l'Ukraine. Écoutez bien, écoutez. En 1991, au moment donc où éclate l'URSS, et donc l'Ukraine devient indépendante, et elle vote pour son indépendance, il y a 52 millions d'Ukrainiens. Le dernier chiffre que je viens de découvrir, il reste 19 millions d'Ukrainiens. Il est parti 32 millions de personnes. 32. Alors avec ça, on peut toujours aller voir M. Zelensky. C'est lui le président de l'Ukraine. Il est le président de quoi ? C'est un sous-préfet. À la limite, c'est rien du tout. Hein. Bon. Alors, M. Modi va faire ça. C'est un geste donc, qui donne beaucoup d'importance à un personnage. C'est récent, ça voyait. Un personnage qui ne devrait pas en avoir et qui est nuisible par ailleurs. Bon. Et pourquoi y est-il allé ? On se demande, qu'est-ce qu'il est allé faire ? Alors, il a dit, c'est pour faire le médiateur, pour voir s'il n'y a pas un accord possible entre la Russie et l'Ukraine, etc. Mais il est allé faire du business. Ah ! Ah ! Alors, j'en arrive à des faits sur ce monsieur Modi, qui est un étrange personnage. L'Ukraine se caractérise par le fait que, du temps de l'URSS, un certain nombre d'industries de pointe, y compris dans l'industrie d'armement, étaient localisées en Ukraine, qui étaient considérées d'ailleurs comme la république la plus développée, la plus industrialisée, la plus technologiquement avancée. L'Ukraine fabriquait des avions d'une marque qui s'appelle Antonov. Et il existe sur le marché mondial le plus gros avion cargo porteur du monde. C'est un 6 réacteurs, un énorme truc, plus gros que les Hercules états-uniens, qui s'appelle l'Antonov, je ne sais pas combien, peu importe. C'est eux qui le fabriquent. Il se trouve que, du temps de l'URSS, l'Inde, l'armée indienne, s'était équipée d'un certain nombre d'Antonov. Et il se trouve que ces Antonov ont besoin d'être un peu réhabilités, arrangés. Et il se trouve que l'usine Antonov d'Ukraine, elle est à court de pièces détachées. Il n'y a peut-être plus beaucoup d'ouvriers, ils sont peut-être tous partis, etc. Et donc, M. Modi allait voir si, effectivement, il serait possible de faire réparer ces Antonov. La réponse n'est pas évidente. La réponse n'est pas évidente en ce sens que certaines pièces qui allaient dans les Antonov venaient d'usines qui étaient en Russie et qui sont toujours en Russie. Et donc il est assez probable que la Russie dira « Moi, les pièces détachées qui sont nécessaires, je ne les donne pas, parce que si c'est pour bombarder ou pour envoyer du matériel sur les soldats russes, je n'ai pas très envie. » Donc voilà, M. Modi est dans ce genre d'opération un petit peu douteuse. Même chose pour les moteurs des sous-marins. Les sous-marins indiens étaient aussi des sous-marins construits par l'URSS. Là aussi, il y a des besoins de rénovation. Mais là, il faut trouver aussi une usine. Alors, il y avait aussi une usine en Ukraine qui faisait ces produits-là. Mais est-ce qu'il y a encore des ouvriers ? Est-ce que les ingénieurs ne sont pas tous partis et tout ? Bon, toujours est-il que M. Modi est allé faire sa tournée pour voir s'il pouvait faire réparer son armée. Et puis, il a commencé à dire « Ah, mais il y a des entreprises indiennes qui vont acheter des entreprises ukrainiennes en difficulté. » M. Modi est venu faire son marché chez M. Zelensky. Et M. Zelensky, qu'est-ce qu'il peut répondre à ce genre de choses ? Rien du tout, hein, puisque en plus les entreprises ne lui appartiennent pas, il ne gouverne rien du tout. Hein. Il est probablement plus président pour très très longtemps. Mais on a là donc un personnage qui mérite d'être suivi d'assez près, en ce sens qu'il est dans les BRICS, je le rappelle, fondateur des BRICS. Il est apparemment, il s'entend très bien avec Vladimir Poutine, c'est tant mieux, hein, mais il est quand même assez hostile à la Chine, qui voit comme son adversaire historique, ce qui est en partie vrai, hein, et donc il se livre à des activités un peu tendancieuses sur la scène diplomatique. Et il voyage de plus en plus. Après l'Ukraine, il est allé en Pologne. Aujourd'hui, il est dans le sultanat de Brunei. Alors, le sultanat de Brunei, c'est un sultanat musulman à l'est d'une des îles de l'Indonésie, qui est un pays indépendant, donc... Hein. Qui est l'homme le plus riche du monde, avec des centaines de milliards de dollars. Hein. Donc M. Modi a une activité diplomatique très intense qui en fait un élément étrange dans le jeu des BRICS. Un élément qui jouerait, on dirait en football, il joue un peu perso, M. Modi. Alors on va voir, tout ça va se cadrer au moment de la grande réunion de Kazan, donc des BRICS au mois d'octobre. Où on va alors savoir, parce que c'est ça qui se mijote, c'est-à-dire on va savoir, et ça la diplomatie russe s'en préoccupe, quelles sont les conditions concrètes pour rentrer dans les BRICS. C'est là que ça va devenir intéressant, parce que jusqu'à présent ça s'est fait un peu, ben, on s'entend bien, on se voit, on est d'accord, etc. Là, vu l'afflux des candidatures, on est à une quarantaine de candidatures officielles, hein, je parlais du Venezuela, il y a l'Algérie, il y en a beaucoup d'autres, il est nécessaire, évidemment, qu'il y ait un certain nombre de règles qui soient prises entre ceux qui sont déjà, avant d'élargir, et que ça devienne un peu la foire d'empagne et la place du village où chacun dit la sienne et plus rien ne fonctionne. Hein. Donc on va avoir des surprises, mais les surprises doivent être organisées par ceux qui sont déjà dans les BRICS. Et là, M. Modi va être au pied du mur. Où tu joues la discipline collective, à minima, sur les règles qu'on va établir en commun, ou bien qu'est-ce que tu fais là au milieu ? Et ils jouent ce jeu. Alors c'est compliqué parce qu'en même temps, il est un peu inquiet par ce qui s'est passé au Bangladesh. Je reviens un peu sur le coup d'État du Bangladesh. Ce qui s'est passé au Bangladesh, c'est qu'il arrive pour l'instant une espèce de gouvernement intérimaire qui est mené par le parti nationaliste bangladais. Ce parti est beaucoup plus proche du Pakistan que ne l'était le parti de Madame Hasina, même très très proche du Pakistan, au point qu'ils sont en train de renouer des relations, alors que le gouvernement de Madame Hasina et le mouvement politique dont elle était la présidente se méfiaient beaucoup du Pakistan, puisque pour eux, le Pakistan, c'était les frères pakistanais qui étaient venus les tuer au moment où ils voulaient, eux, être indépendants. Et donc, de ce fait, les relations entre l'Inde voisine et le gouvernement de Madame Hasina étaient bonnes. C'est-à-dire que l'Inde, qui avait défendu l'indépendance du Bangladesh, avait de bonnes relations avec la présidente, la première ministre, qui est partie. C'est plus du tout le cas avec le parti nationaliste bangladais qui, lui, est ami du Pakistan. Donc, en fait, par cette évolution, l'Inde se retrouve enfermée dans sa position de défense de l'hindouisme contre les musulmans d'à droite et à gauche au Bangladesh. Bon, c'est pas une position très facile. Et puis, c'est très mauvais parce que M. Modi a une mauvaise attitude sur la question religieuse. C'est-à-dire, il est intolérant. Il est intolérant. Il a mis en avant l'hindouisme jusqu'à faire organiser lui-même des pogroms. Donc il a besoin de dire, s'il veut travailler en bonne intelligence dans l'esprit des BRICS, on se respecte, chacun ses coutumes, etc. Mais l'intolérance religieuse ne fait pas partie du programme des BRICS. Voilà ce que je voulais dire sur ce monsieur un peu particulier dont on reparlera. Alors tout ça va se jouer donc au moment du sommet de Kazan, qui est à mi-octobre, sur le territoire de la Russie, mais il y aura du neuf. On n'a jamais manqué une occasion à cette antenne de parler des BRICS comme un élément positif dans l'avènement du monde multilatéral, mais on voit bien, sur ce cas de M. Modi, par exemple, que les difficultés existent et qu'on ne met pas en place un nouvel ordre international comme ça, avec tout le monde qui est gentil et qui essaye de participer honnêtement. Il y a des jeux et on sent bien que M. Modi joue un jeu très personnel, sur la base d'une critique religieuse qui est inquiétante. Ça me donne un relais. Je regarde là, ça me donne un relais, c'est que hier, je crois que c'était hier, oui, le président russe était dans une république de la Fédération de Russie. Alors vous savez que la Fédération de Russie, c'est un État fédéral, mais avec plusieurs systèmes, il n'y a pas qu'un seul type d'État, comme aux États-Unis par exemple, il y a plusieurs types d'États. Et il était dans un État qui est une république autonome, c'est un des cas de figure possibles dans la Fédération russe, qui s'appelle le Tuva, T-U-V-A. Personne ne connaît. Alors, le Touva, c'est un petit morceau de Russie, donc, qui est au nord de la Mongolie, tout au fond de la Sibérie. Au Touva, on est bouddhiste, majoritairement, très majoritairement. Et M. Poutine s'est arrêté, parce qu'il était en route vers la Mongolie, où il est aujourd'hui. Il s'est arrêté, et il s'est pas arrêté pour faire des grands discours, il s'est arrêté, puis il est allé voir les enfants des écoles. Ouais. Il est allé voir les enfants des écoles. Et puis il a dit, je suis content de vous voir parce que ça me fait plaisir de voir les citoyens de la Russie avec leurs conditions de vie, etc. Et il leur a demandé de parler, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos... Alors, et il a parlé finalement de la situation militaire de l'opération spéciale. Et il a dit, mais vous savez, c'est très très bien qu'il y a un certain nombre de milliers de citoyens du Touva qui sont sur le front et qui travaillent très très bien, qui font leur travail. Mais c'est leur façon de participer à la défense de la Russie qui est attaquée par l'Occident et par l'OTAN, etc. Et puis, il a demandé aux uns et aux autres leur perspective d'études. Il a beaucoup insisté, faites des études. On organise les écoles autant qu'on peut. Il y a de gros moyens qui sont mis à disposition. Il a fait un travail de contact devant des groupes, pas des amphithéâtres de 200 étudiants, devant une classe de 25 personnes, mais discutant avec tout le monde. Quelle discipline tu préfères, quel sport tu pratiques, etc. C'est-à-dire, il a l'habitude maintenant, il l'a fait dans d'autres circonstances, de pratiquer ce contact direct avec la population, où il répond un peu comme s'il était le grand-père de la famille. On lui pose des questions, et bien voilà où on en est, voilà ce qu'il faut faire. Et il insiste, et c'est le but de la manœuvre, bien entendu, c'est pas naïf, c'est de dire, la Russie est attaquée, on la défendra tous ensemble. Vous la défendrez comme nous, comme on la défend tous, qu'on soit ukrainien, qu'on soit, je veux dire, de telle ou telle république. Voilà. Ça, c'est Poutine. Ça, c'était Poutine hier. Puis aujourd'hui, il est en Mongolie. Alors là, ça devient très, très intéressant. Il arrive en Mongolie, donc on le voit descendre de l'avion, accueil grandiose avec tapis rouge, vrai, dans le vrai sens du terme, un vrai tapis rouge, les honneurs militaires et tout, accueil vraiment de très haut niveau, qui n'est pas le cas de tous les visiteurs officiels en Mongolie. Et il arrive dans un pays qui a adhéré à ce qu'on appelle le statut de Rome, donc qui est membre de la Cour pénale internationale, et normalement, si la Mongolie respectait la Cour pénale internationale, la Mongolie aurait dû le prendre à la sortie de la coupée de la passerelle et dire maintenant, on te met les menottes et on te renvoie à la haie. Bon. Il ne s'est rien du tout passé de semblable. Alors, c'est très, très intéressant parce que ça fait hurler, bien entendu, à la Cour pénale internationale. Ça fait hurler en Occident, mais en fait, il ne se passera évidemment rien. Tout ça a été gentiment préparé. La Mongolie sait très bien ce qu'elle fait, et la visite avait été organisée en particulier. Il n'y a pas que ça, il y a des relations intenses entre la Mongolie et la Russie et l'URSS à l'époque, hein, mais ça avait été organisé pour bien montrer à la population mondiale, à ceux à qui on montrera cette image, je pense qu'elle ne fera pas la tournée sur BFM, mais on la montrera, que M. Poutine est bien accueilli en Mongolie et qu'il n'a pas les menottes au poignet. Bon. La Cour pénale internationale prend une claque magistrale. J'ajoute qu'elle n'a pas volé. Qu'elle n'a pas volé. Parce que pourquoi y a-t-il un mandat d'arrêt contre M. Vladimir Poutine ? Parce qu'un beau jour, le gouvernement de M. Zelensky, alors à l'époque où il était encore le président de quelque chose, maintenant il n'est plus le président de rien du tout, avait donné un dossier à la Cour pénale internationale, dossier donc accusant Vladimir Poutine de trafic d'enfants, hein, alors à la limite de la pédophilie, vous voyez, donc c'était, on le salissait, mais au plus haut degré, le plus possible. Et la Cour pénale internationale et ses procureurs avaient accepté le dossier fourni par Kiev sans aller vérifier quoi que ce soit. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale s'était fait l'agent du gouvernement ukrainien pour envoyer un mandat d'arrêt contre M. Poutine. Bravo, la Cour pénale internationale. Alors quand on sait que la même Cour pénale internationale patauge depuis des mois et des mois pour envoyer des mandats d'arrêt contre Netanyahou et que la pauvre, elle n'y arrive pas, comme c'est triste, elle n'y arrive pas, et bien voilà, on sait que la Cour pénale internationale est en train de se ridiculiser. Et aujourd'hui, le président de la Russie la ridiculise comme elle méritait de l'être. Car les enfants en question, c'est des enfants qui étaient dans des orphelinats, dont les parents étaient morts sous les armes, sous les balles ukrainiennes, et qu'on a replié en Russie pour pas qu'ils restent dans la zone des combats. C'est ça, hein, le crime de M. Poutine. Alors il faut arrêter de jouer à ce jeu-là. La Cour pénale internationale s'y est essayée. Je pense que là, elle est en train de perdre beaucoup, beaucoup de sa... son aura, ce qu'elle méritait de moins en moins, mais là, vraiment, c'est trop. Bon. Donc, de quoi ils vont parler en Mongolie ? Ben, effectivement, des relations qui ont toujours été étroites, même du temps de l'URSS, entre l'URSS et la Mongolie. La Mongolie a de grosses ressources naturelles, elle veut se développer, ils sont très très peu nombreux, et donc la Russie va l'aider, et puis c'est un des points de passage pour accéder à la Chine voisine. Bon. Donc, il y aura forcément toute une série d'accords concrets, mais la Mongolie, en acceptant et en honorant ainsi le président russe, a montré qu'elle ne s'inquiétait pas beaucoup du mal qu'on pourrait dire d'elle en Occident. C'est une leçon aussi qui est importante à retenir. Bien. Alors, au point où on en est, il faut évidemment que nous parlions de ce qui se passe au Moyen-Orient et en Palestine. Alors, la grande évolution. Alors, je reviens. Hein, pendant tout cet été, vous avez été en train de regarder qui sautait à la perche, qui courait ici et là, qui jouait bien au ballon. Ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire que tous les jours, pendant tout le temps où vous étiez les yeux rivés sur votre écran, il mourait 100 ou 50 Palestiniens à Gaza. Tous les jours. Ça n'a pas arrêté. À différents endroits de la bande de Gaza, mais ça n'a pas arrêté. Alors on a entendu ici et là des émotions s'exprimer, hein, y compris Mme Harris, hein, comme c'est triste que des Palestiniens meurent. Oui, comme c'est triste. Hein, mais comme elle veut de la joie partout, elle oublie vite. Hein, puis c'est comme ça qu'elle fonctionne. Bon. Et donc, c'est ce qui s'est passé et ce qui n'arrête pas. Voilà, c'est ça la donnée. Mais l'élément nouveau, et c'est un élément nouveau des deux dernières semaines, c'est que la guerre entre la Palestine, les combattants palestiniens, tout groupe militant confondu et l'armée israélienne s'est étendu désormais en Cisjordanie. C'est-à-dire qu'on est dans l'affrontement final. C'est-à-dire que là, la politique de Netanyahou et de ses ministres va en guerre, est là, très claire. Il ne faut plus laisser un seul hectare de terre aux Palestiniens. Dehors les Palestiniens, à mort les Palestiniens. C'est donc la Nakba réinventée, remise au goût du jour. Il y avait Gaza qu'on avait un peu isolé. Non, maintenant c'est partout. C'est-à-dire que le gouvernement de Netanyahou joue son va-tout sur la position la plus extrême, c'est-à-dire mettre les Palestiniens à la mer. Qu'on comprenne bien la situation. Elle est là. Elle est là très clairement. Très curieusement, ça donne lieu... Alors, ce n'est pas ça qui donne lieu à des manifestations en Israël, puisqu'il y en a eu dimanche et encore hier. Ce qui donne lieu à des manifestations en Israël, c'est le fait que l'armée israélienne a tenté de récupérer un certain nombre de prisonniers qui étaient à Gaza, dans des prisons organisées par le Hamas, et que l'offensive, enfin, cette tentative de récupération des prisonniers a été menée de telle façon que les prisonniers sont morts. Et donc il y a une partie de l'opinion israélienne qui se dresse contre M. Netanyahou, non pas parce qu'il tue des Palestiniens et qu'il veut les jeter à la mer, ça leur fait rien du tout, mais parce que 5 prisonniers israéliens sont morts. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est très peu de choses. C'est très peu de choses. C'est un intérêt égoïste. J'ai quelqu'un de ma famille qui est prisonnier à Gaza. Je veux qu'on le libère. Il est mort à la cause d'une erreur militaire. C'est une erreur militaire. Ils s'y sont mal pris, les soldats israéliens, hein, puisqu'ils ont tué tout le monde. Bon. Et donc, j'en veux à Netanyahou. Mais j'en veux pas à Netanyahou parce qu'il veut éliminer tous les Palestiniens. J'en veux à Netanyahou parce qu'il y a 5 morts du côté israélien.
6.
6, voilà. On est toujours dans la même disproportion, c'est-à-dire on met à feu et à sang. Il y a même eu un projet, je ne sais pas si ça a eu lieu, de grève générale appelée par Ilstadrout hier, pour protester contre ça. Alors on arrive à une grève générale en Israël parce qu'il y a 6 morts israéliens alors qu'il y a 100 morts palestiniens tous les jours. Et que le syndicat, alors qui est un syndicat du régime, je ne vais pas faire l'histoire du Ilstadrout qui est très très particulière, c'est un syndicat sioniste au dernier degré, mais ça ne serait pas simplement de défendre les 6 vies de prisonniers israéliens, ça serait défendre la population. Ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en plus, dans les usines israéliennes, il y a des Palestiniens qui travaillent. Alors il y en a de moins en moins, parce que si on les traite comme ça, ils ne vont pas rester. Et puis maintenant, on essaye de faire venir des gens de l'extérieur avec un succès relatif, parce que, allez, il faut vraiment trouver un mort de faim quelque part dans un territoire abandonné pour qu'ils viennent aujourd'hui travailler en Israël dans une usine qui risque d'être bombardée demain matin. Bon. Mais, donc ça fait partie aussi de la crise. Simplement, ce qui est important à noter, donc ne pas se faire d'illusions sur la crise politique israélienne, qui est une crise entre deux courants du sionisme, mais rien d'autre que ça, mais qui en même temps montre que ce pays va mal. Ce pays va mal parce qu'il est endetté, finalement. Alors, bien sûr, les États-Unis font du dollar en envoi.
Un milliard et demi.
Voilà. Ce pays est en retard économiquement. En fait, l'économie est quand même beaucoup arrêtée du fait de cette guerre qui a lieu des deux côtés. Mais retenez que le passage de ces 15 derniers jours, c'est le passage de l'étape élimination de Gaza qui ne marche pas. J'ajoute, l'élimination de Gaza, ça ne marche pas. Le Hamas n'a pas disparu et les pertes du Hamas sont très très faibles. Hein. Et donc le Hamas continue à être...
toujours là, voilà,
le Hamas continue à être un adversaire militaire redoutable avec ses tout petits moyens sur le territoire de Gaza. Mais maintenant, donc, la deuxième guerre, qui est la guerre de Cisjordanie, consiste à éliminer les Palestiniens et à créer encore des colonies, etc. etc. Bon. C'est donc l'élimination finale. Et donc là, c'est qui tout double pour le régime sioniste, c'est-à-dire ou bien il arrive effectivement à mettre tous les Palestiniens à la mer, ou au tombeau, au choix, ou bien effectivement, c'est lui qui va mal finir ses jours. Ils doivent le savoir, d'où une espèce de fureur, meurtrière.
Je pense qu'ils sont en train de défendre vraiment l'existence d'Israël.
Complètement, voilà. Oui, c'est pour ça, la fureur meurtrière, moi je l'interprète comme ça. Ils sentent bien que c'est au bout. Alors, et c'est là qu'il y a une espèce de surenchère dans la violence et dans l'outrance politique. Et il n'y a aujourd'hui pas grand monde pour les arrêter. C'est-à-dire que, normalement, qui pourrait les arrêter, sauf les États-Unis. Or, les États-Unis ne sont pas dans une situation politique où ils peuvent faire quoi que ce soit. Et puis, on voit mal Mme Kamala Harris arriver 15 jours avant le vote, mi-octobre, en disant « on arrête la guerre d'Israël ». Là, elle perd à tous les coups. Donc, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Donc, ça veut dire qu'on a une perspective d'au moins 3-4 mois d'horreur du même type. Mais dans laquelle, alors, l'intérêt du côté palestinien, c'est que les Palestiniens sont unis maintenant, et les slogans qu'on peut entendre dans les manifestations, y compris celles qui ont lieu à Marseille tous les dimanches, sont bien, montrent la prise de conscience des manifestants, disant qu'il s'agit bien d'un gouvernement d'union nationale qui va libérer la Palestine. C'est maintenant ou jamais. Hein. Donc c'est maintenant. Évidemment, c'est pas jamais, c'est maintenant, hein, pour arrêter la colonisation. Voilà ce que je voulais dire concernant la situation en Israël. Et puis il faut ajouter que d'un autre côté de l'État d'Israël, il se passe aussi, il y a un deuxième front militaire qui est très très important.
Ouais.
Il y en a même un troisième sur lequel je reviendrai, qui est le front donc à la frontière libanaise.
Ouais.
Il faut savoir que les actions militaires du Hezbollah, qui donc là aussi, à l'image du Hamas, s'est beaucoup enterré, a beaucoup préparé ses installations sous la terre, caché tranquillement, est en capacité d'intervenir militairement sur le sol israélien. Il le fait. À telle enseigne que le résultat aujourd'hui, c'est qu'en gros, il y a une bande de 100 km au sud de la frontière libanaise officielle où il n'y a plus de colons israéliens. La zone est neutralisée parce qu'effectivement, il arrive trop...
Sur 15 km à peu près, voilà, ouais. Hein,
il arrive trop de drones, trop de... Bon, donc, voilà, ça, c'est le côté. Alors, Israël essaye de riposter en faisant la même chose de l'autre côté de la frontière du Liban. Alors, ça existe un peu parce que le Libanais qui cultive son champ au nord de la frontière, ben, il a tendance un peu à s'en aller. Mais de toute façon, c'est là qu'est le Hezbollah. Et donc là, personne ne rentrera.
Hein, donc, ce qu'il faut faire la distinction, c'est que le Hezbollah, il n'est pas là pour se battre contre la population israélienne.
Tout à
c'est
fait.
Plutôt les bases militaires, les radars et tout ce que ça suit, alors que les Israéliens
sont toujours dans
les mêmes politiques, c'est tuer les gens,
assassiner les gens. Puisqu'il faut éliminer les Palestiniens. Ouais, alors effectivement, le Hezbollah a de grosses capacités militaires, on s'en rend compte. Ils ont une connaissance extrêmement précise de la situation israélienne. Où sont les usines? Où sont les lieux de commandement? Où sont les concentrations militaires? Et donc, ils tapent
d'ailleurs,
pas au hasard.
Ce qui est formidable, c'est que Nasrallah, dans son discours, il a nommé tel boulevard à droite.
Oui, tout à fait.
C'est incroyable.
Oui, comme s'il travaillait sur une carte. Là, on va frapper. Et effectivement, alors, on dit Israël a attaqué le Hezbollah, mais en fait, on ne nous détaille pas dans la presse occidentale la riposte du Hezbollah qui est d'une précision extrême et qui ne consiste pas à tuer des Israéliens. C'est pas ça la politique. La politique, c'est effectivement.
Il y a 11 bases israéliennes qui ont été touchées.
Touchées, exactement. Ah. Ça, c'est très, très important de le rappeler. Deuxième chose, l'Irak est de plus en plus mobilisé pour le soutien à la Palestine. Ça, c'est très, très important. Et c'est intéressant de se rappeler que l'Irak, au point de vue de la confession musulmane, est majoritairement habité par des chiites. Oui. Et que les lieux saints du chiisme sont en Irak, à Karbala en particulier. Et qu'en fait, il y a eu donc le pèlerinage annuel à Karbala qui a eu lieu, où il y a des millions de personnes, des millions d'Irakiens qui viennent. Et c'est là que se noue la résistance irakienne à Israël, beaucoup plus que dans d'autres endroits. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le gouvernement irakien, tout en ayant encore des soldats, des troupes des États-Unis sur son sol, est en capacité de dire « Mais vous nous avez raconté depuis des décennies que vous êtes là pour empêcher l'État islamique de prendre la main sur l'Irak. Mais l'État islamique, on en a fait notre affaire. Il n'y a plus d'État islamique. Pour vous, c'est un prétexte pour rester là. Vous pouvez partir. Et de toute façon, vous direz ce que vous voudrez, mais nous, on soutient la cause palestinienne. Que les choses soient claires. Bon. » Donc, vous voyez, Hezbollah, l'Irak qui prend ces positions-là de plus en plus clairement. L'Irak qui est... Alors, de la part des gens qui vont visiter maintenant, on peut aller en Irak sans risquer sa vie tous les matins, ce qui n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Et une partie de l'Irak, au moins, est bien reconstruite. Il faut savoir que l'Irak a continué presque tout le temps à vendre son pétrole, dont la moitié part en Chine tous les jours. Ouais. Et donc, il y a des ressources, et donc il y a des moyens. Et un gouvernement qui veut se faire respecter, qui dit « je suis chez moi, je fais ma politique », a les moyens de mener une politique de reconstruction, de redéveloppement du pays qui a extraordinairement souffert, on le sait. Le troisième point, c'est évidemment les Yéménites, avec les Houthis.
C'est formidable.
Voilà, qui continuent à rendre l'accès à la mer Rouge dangereux pour ceux qui s'y aventurent, et donc qui continuent à troubler le commerce international.
Il y a pas mal de bateaux israéliens qui ont été bombardés. Voilà. Et donc le gros
des transports de marchandises entre l'Europe, enfin l'Asie et l'Europe, se passe toujours par l'Afrique du Sud, par le Cap, autour du Cap de Bonne-Espérance.
Ouais.
Et donc ça ralentit beaucoup, ça renchérit beaucoup, et le commerce s'est affaibli en ce sens que la crise européenne, sur laquelle je n'ai rien dit, mais est réelle, c'est-à-dire que quand on parle des taux de croissance de l'économie russe ou même de l'économie du Bangladesh, c'est beaucoup, beaucoup plus important que les taux de croissance de l'économie européenne. L'économie allemande est en souffrance, l'économie italienne est en souffrance, l'économie espagnole est en souffrance, l'économie française ne va pas mieux. On se voit alors, la French start-up est en train de s'effondrer. Je crois qu'il y a 30 000 start-up, petites entreprises, qui ont fermé au premier semestre 2024. Ouais. Donc ça ne marche pas. Hein. Donc tous les jeunes qui avaient mis leurs économies, qui avaient été pour créer des sociétés nouvelles, ils n'y arrivent pas parce que le marché n'est pas là et que la France, du fait de cette incertitude politique dans laquelle elle vit, ne peut pas prendre... Enfin, un citoyen français normalement constitué qui veut tenter sa chance, monter une affaire, faire du business et tout, il dit, mais c'est quoi le gouvernement? Quelles sont les mesures? Où je vais? Où allons-nous? Et en fait, il n'y voit pas très clair, donc il arrête. Et les clients, c'est pareil. Les clients n'y voient pas très clair. Pour ceux qui ont encore un peu de pouvoir d'achat, on met de l'argent de côté et on verra un autre jour. Ce n'est pas un climat qui forme à l'optimisme dans les affaires. Enfin, dernière chose qui est importante. Pourquoi l'Ukraine est allée sur le territoire de la République russe et sur l'Oblast, comme on dit, la province de Koursk? Ouais. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a dans l'Oblast de Koursk une centrale nucléaire, comme il y en a d'autres en Russie, mais celle-là est assez proche de la frontière, relativement assez proche de la frontière. Les soldats ukrainiens, ou les soldats de l'OTAN, ou les mercenaires, je ne sais pas comment il faut appeler ça, n'ont pas beaucoup progressé. Ils sont encore à des dizaines de kilomètres de la centrale nucléaire. Quel était l'objectif? Alors il ne s'agissait pas, et il faut bien clarifier les choses, de mettre le feu à une centrale nucléaire pour faire un joli feu d'artifice modèle Tchernobyl. C'était pas ça. Il faut revenir au début de l'opération spéciale. On est le 22, je regarde l'heure, on est le 22 février 2022. Le vendredi 18 février se tient à Munich la conférence annuelle sur la sécurité en Europe. Monsieur Zelensky, en présence de Madame Kamala Harris, vice-président, annonce que l'Ukraine a décidé de nier les accords qu'elle avait signés et qu'elle décidait de revenir à l'armement nucléaire auquel elle avait renoncé. Ça, c'est le vendredi. Hein ? Et donc, il dit ça, c'est qu'il est prêt. Il est prêt à revenir à l'arme nucléaire. Il a les matériaux. Et où est le matériel? Alors, il faut du plutonium, de l'uranium enrichi, etc. Il y en a. Le matériel pour faire des bombes atomiques ukrainiennes futures, il est à deux endroits. Il est à la centrale de Zaporoïe, la fameuse grande centrale, et il est à Tchernobyl. Que font les troupes russes le 23 et le 24 février 2022? Elles vont à Tchernobyl et à Zaporoïe qu'elles occupent. Ouais. Alors, elles occupent bien entendu les deux lieux. Tchernobyl, ils y resteront pratiquement pas. Mais ce qu'elle fait ce jour-là, c'est que l'armée russe, elle prend tout le matériel, les tonnes, les dizaines de tonnes de plutonium, les dizaines de tonnes de plutonium, les centaines de tonnes d'uranium enrichi qui sont là, et elle les embarque. Et donc, elles n'y sont plus. Et les services de renseignement ukrainiens ont réussi à savoir que ce stock de plutonium et d'uranium enrichi était à Koursk. C'était ça le but de la manœuvre. Bon, ça ne marchera pas, mais c'était ça. Récupérer, ce qui est une véritable fortune, hein, qui est aux mains de la Russie. La Russie a aujourd'hui un stock qui en fait, ce stock mis sur le marché mondial, en fait de la Russie un des pays les plus riches du monde. Hein. C'est plus qu'un émirat pétrolier. Mais c'est ça qui ne nous sera pas expliqué. Hein. Monsieur Zelensky était prêt à lancer des bombes atomiques sur la Russie. Et Madame Kamala Harris l'avait laissé dire. Et ne s'était pas insurgée, c'est-à-dire qu'elle était d'accord. Et elle avait dit, peut-être ça sera dans la joie, comme elle dit toujours que tout se passe dans la joie. Bravo, Madame Kamala Harris, un bon début. Voilà, je regarde l'heure, on va finir par deux petites chansons de Catherine Ribeiro, chanteuse militante qui s'est éteinte il y a une quinzaine de jours, qui a été oubliée dans ces derniers jours, elle était âgée. Une première chanson qui s'appelle « Les sans-culottes ». Et puis une autre chanson qui s'appelle, on va peut-être déborder un peu, qui s'appelle « Insoumission totale ». Ça, c'est un clin d'œil aux insoumis. Vous verrez que c'est une autre forme d'insoumission du temps de Catherine Ribeiro. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Habib, d'être là. Merci, Roselyne. Et à bientôt.
De tyrans, on chante à les despotes, on chante à les despotes. Sous celui de la liberté, des lois et de l'égalité, chantons les sans-culottes, chantons les sans-culottes. puis l'on ne voit plus à Paris les insolents petits marquis, ni tirants à calotte, ni tirants à calotte. En brisant ce joug infernal, si le pauvre riche est égal, c'est grâce aux sans-culottes, c'est grâce aux sans-culottes. Leur front à la terre attaché, dans la poussière était caché, à l'esprit des despotes, à l'esprit des despotes. Levons-nous, ont-ils dit un jour, ah bah messieurs, chacun son tour, vive les sans-culottes, vive les sans-culottes. La tête de café tomba, sans ses protères, se courba devant les patriotes, au règne des affres des rois, succéda le règne des lois, de parler sans culotte, de parler sans culotte. Des traîtres régnaient au Sénat, on les nommait hommes d'État, ils servaient les despotes, ils servaient les despotes.